Je lirai dans le livre de Daniel, au chapitre 3. On va lire tout le chapitre. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 66 coudées. Il l'adressa dans la vallée de la Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabucodonosor. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabucodonosor. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée le roi. Un héros cria à haute voix : Voici ce que vous ordonne peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, du sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nabucodonosor. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion et de tout autre instrument de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nabucodonosor. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nabucodonosor : Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu de la fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nabucodonosor, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nabucodonosor prit la parole et leur dit : Est-ce de propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée ? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabucodonosor : Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu, que le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi, Nabucodonosor fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nabucodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers : N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ? Ils répondirent au roi : Certainement, ô roi. Il reprit et dit : Eh bien, je vois quatre hommes, sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez !» Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes et que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons, leurs vêtements n'étaient pas endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera détruite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Ta parole, Seigneur, est source de vérité. Rends-nous meilleurs par ta vérité. Voilà, aujourd'hui, pour notre méditation, nous allons prendre ce passage de l'Ancien Testament et nous écouterons donc ce livre de Daniel. Il y a trois éléments de ce récit que nous venons d'entendre sur lesquels nous pourrions porter notre attention ce matin. D'abord, je vous propose de nous pencher un peu sur les méchants de cette histoire. Et puis, nous pourrions nous interroger sur la totale absence de Daniel dans cet épisode. Et enfin, voir le message principal de ce passage et essayer d'en retenir un sens pour nous aujourd'hui. Alors d'abord, les méchants. Qui sont les méchants de cette histoire et en quoi me concerne-t-ils ? Alors, il est évident que le roi de Babylone, qui ordonne le supplice de ces trois jeunes juifs, en fait partie. On va y revenir. Mais avant lui, n'est-ce pas peut-être d'abord ceux qui, certainement bien intentionnés, vont trouver le roi pour dénoncer l'attitude rebelle de ces trois jeunes qui ont été nommés dans son service quelques années auparavant. Alors, pourquoi cette dénonciation au roi ? On sait pourtant que ces trois jeunes étaient beaux, instruits, intelligents, qu'ils étaient remplis de sagesse, puisque c'est sur ces critères même qu'ils ont été choisis parmi les déportés d'Israël. On sait qu'ils faisaient bien leur travail, qu'ils donnaient une entière satisfaction dans leur service à la cour du roi. Alors pourquoi cet empressement à aller les dénoncer au roi ? Peut-être simplement par jalousie, par envie, par amertume. Après tout, qui sont ces juifs pour être au service du roi ? Mais peut-être aussi par simple méchanceté ou encore plus grave ou encore plus délicat, on pourrait dire, ça pourrait être par malin plaisir de voir le roi s'agacer et d'être finalement les témoins de leur exécution. De tout temps, il y a eu une espèce de fascination comme ça pour d'assister à l'exécution d'êtres humains. Quel que soit le mode, le feu, la pendaison, la lapidation, tout ce qui a pu être inventé, vous pouvez l'imaginer, la décapitation, on a eu ça aussi en France. Et si vous y pensez bien, l'image qu'on a de ça, c'est toujours une foule plutôt enthousiaste qui est là devant et qui est présente pour regarder l'exécution, la souffrance, être les témoins fascinés de la mort d'un homme. Cette mort a toujours fasciné, et peut-être que c'est l'une de ses intentions. Mais ces médisants de notre histoire, sont-ils vraiment pour quelque chose dans la mort annoncée de ces trois jeunes ? Parce qu'après tout, ce sont ces juifs qui se rebellent, et c'est le roi qui donne l'ordre de les faire brûler et de les exécuter. Eux, ils n'ont fait que relever une petite anomalie comme ça au passage. Et on voit dans notre contexte que la médisance peut conduire à des conséquences dramatiques pour les autres, des conséquences que nous ne maîtrisons pas, que nous ne contrôlons pas. Alors bien sûr, ça ne nous concerne pas, nous, aujourd'hui, ici, nous qui sommes chrétiens, protestants, à Londres, en 2022. Non, bien sûr que non. Mais toutefois, ne pouvons-nous pas trouver, même chez nous, qui sommes sans doute des chrétiens parfaits, ou presque parfaits, cette même tentation d'aller dénoncer les erreurs d'un ou d'une collègue à nos supérieurs? Alors bien sûr, pas pour une exécution, mais davantage pour le bien de la personne en question, ou pour le bien de l'ensemble, du groupe, pour la bonne marche de notre entreprise. Bref, avec autant de fausses excuses qui masquent à peine la méchanceté de notre cœur. Alors je ne sais pas, hein, c'est sans doute une question que nous pose le texte. Et puis dans notre récit, parmi les méchants, il y a bien sûr Nabucodonosor lui-même. Vexé qu'il est de l'affront, il devient furieux, il perd toute patience à l'égard de Shadrach, Meshach et Abednego. Il ordonne qu'on chauffe la fournaise 7 fois plus que d'habitude et qu'on les jette dedans. Ici, on voit comme la fureur de Nabucodonosor est destructrice, à tel point même qu'elle se retourne contre ses propres serviteurs, puisque les gardes d'élite qui jettent les 3 jeunes gens dans la fournaise surchauffée sont tués instantanément. Cette sauvagerie ne peut pas être prise comme un simple élément du récit et de son déroulement dramatique. Bien sûr, la cruauté de Nabucodonosor va permettre l'intervention de Dieu et du coup provoquer le message du récit. Mais l'épisode du roi cruel, ordonnant que des juifs soient jetés au four, ne peut pas ne pas nous rappeler ce qui fut sans doute l'un des épisodes les plus atroces de notre histoire, surtout que dans son horreur, l'histoire a souvent bégayé. Mais je ne veux pas ce matin m'étendre sur l'histoire ou l'actualité de l'antisémitisme et de la barbarie qui l'accompagne toujours. Ce matin, je veux avoir le courage de me reconnaître en Nabucodonosor, en ce roi qui décide dans sa fureur de brûler ceux qui sont différents, ceux qui refusent de se plier à sa loi, à sa volonté. Ce matin, je veux prendre conscience que ce visage de l'intolérance, de la colère, de la barbarie et de la destruction d'autrui est encore trop souvent le mien. Oui, alors bien sûr, je ne suis ni un Hitler, ni un Staline, ni un Pol Pot ou quelque autre monstre de l'histoire, mais je me rends compte et je sais aussi combien je suis encore prompt à rejeter ce qui est différent, ce qui ne s'incline pas peut-être devant mon idée, devant ma compréhension des choses, comme je suis agacé à l'intérieur, comme il y a une réaction. Ce matin, je veux me reconnaître en Nabucodonosor, être épouvanté par ce masque de fureur et de sauvagerie que je porte parfois et m'en débarrasser. Ce matin, je veux me reconnaître en Nabucodonosor, être épouvanté par l'horreur des pensées de mon cœur et de ses actions parfois. Je veux me reconnaître en Nabucodonosor et me rendre compte que la conversion, le changement de regard, le retournement sur soi est toujours possible. Voilà pour ce premier point. Avec vous, dans l'action de grâce de Nabucodonosor à la fin de l'histoire, je veux entendre la promesse que la conversion, le changement de cœur est toujours possible. Même pour un Vladimir Poutine. C'est pour ça qu'il faut continuer à prier pour cet homme-là. Et puis, face à cette cruauté de Nabucodonosor, 3 hommes, alors ils ne sont pas anonymes, ils ont des noms, mais en fait, ils ne sont pas vraiment connus. Vous pouvez faire l'essai, demander à quelqu'un qui fréquente un peu la Bible s'il connaît Shadrach, Meshach et Abednego. Il y a des chances qu'ils ne voient pas trop de quoi vous voulez parler. Alors, si vous dites les 3 en même temps, ça peut mettre la puce à l'oreille. Et si vous leur dites que c'est Messie, le compagnon de Daniel, ils diront « Ah, mais oui, mais c'est bien sûr, peut-être. » Eh bien, justement, ce qui est très bizarre dans notre histoire, c'est que Daniel en est complètement absent. Il n'apparaît pas. Seuls ces trois compagnons, ces trois à faire valoir, subissent l'épisode. Eh bien, on pourrait se trouver cette absence de Daniel étrange, intrigante. Pourquoi ? Que peut nous dire cette absence de Daniel ? Eh bien, déjà, reconnaissons peut-être que le risque des Midrashim, vous savez, ces légendes juives dont le livre de Daniel, justement, est un parfait exemple, c'est qu'on perde de vue que le héros est toujours un représentant du peuple tout entier. Et comme pour beaucoup de héros bibliques, les qualités dont Daniel fait preuve sont tellement grandes qu'on peut avoir un peu de mal à s'identifier à lui, à Daniel. Vous savez, c'est le genre de héros dont on ne peut que soupirer, ben super, il nous en faudrait plus des comme lui dans l'Église et dans le monde, très bien, mais on ne se sent pas très concerné pour être comme lui. Eh bien, c'est justement pour ça que dans cet épisode, Daniel n'intervient pas, parce que le récit pourrait produire l'effet inverse de ce pourquoi il a été fait. Parce que le but, ce n'est pas que nous nous tournions vers Daniel ou vers ses exploits ou ses grands faits d'armes, mais plutôt que nous nous tournions vers Dieu et reconnaissions son action dans ce qui est en train de se passer. C'est ça tout le but de l'histoire, et ce n'est pas de reconnaître un quelque héros quelque part. C'est justement donc pour ça que Daniel n'intervient pas, parce que Dieu n'est pas réservé à quelques-uns, à une élite, aux héros, ou aux saints, ou aux meilleurs serviteurs de Dieu que ce soit. Il est également auprès des seconds rôles, ceux sur lesquels la postérité ne parviendra jamais peut-être à mettre un nom. Par cette absence de Daniel, le texte nous affirme donc que même si nous sommes et nous nous sentons dans l'obscurité, bien loin des feux de la rampe, même si nous ne faisons pas partie des stars du peuple chrétien, même si nous ne sommes pas parmi les meilleurs de notre communauté locale, eh bien, nous ne sommes pas moins aimés de Dieu. Dieu est auprès de tous, des héros, des grandes personnalités, comme des petits, des plus humbles et des inconnus. C'est ce que l'absence de Daniel dans ce récit nous rappelle. Dieu est auprès de nous, qui que nous soyons. Abordons maintenant le message principal du texte, message peut-être qui pourrait se résumer ainsi. Livré à la colère de Nabucodonosor, jeté dans la fournaise, Shadrach, Meshach et Abednego ne sont pas seuls, mais Dieu les accompagne. Que faut-il en dire ? Eh bien déjà, peut-être remarquons dans cette histoire la réponse des trois hommes au roi de Babylone, ce qui n'était pas rien. Notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer de cette fournaise et de ton pouvoir, et il nous en délivrera. Et même s'il ne le fait pas, nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as fait dresser. À première vue, ces propos, même s'ils relèvent de manière évidente leur foi dans le Dieu d'Israël, semblent quelque part mettre en doute son omnipotence, sa toute-puissance, sa capacité d'intervenir dans leur histoire. Mais en y regardant de plus près, ce n'est ni la puissance ni la capacité de Dieu à agir, mais c'est sa volonté et son plan dont il est question ici, parce que ces trois hommes, en fait, n'avaient aucune garantie que Dieu accomplirait aucun miracle pour eux, et même s'il est évident pour eux qu'ils pouvaient le faire, s'ils le désiraient, ils n'en avaient aucune certitude. Et c'est peut-être là vraiment un bel exemple d'une foi noble et totalement abandonnée à la volonté de Dieu. Ces hommes ne demandent même aucun miracle, ils n'en attendent aucun, et c'est juste une foi qui dit, comme Job, même si Dieu voulait me tuer, je m'attendrai à lui. Alors maintenant, si leur attitude est remarquable, ne nous étonnons pas que leur récit ne corresponde pas trait pour trait à notre réalité, à nous, à notre expérience. Shadrach et ses compagnons sortent d'une fournaise sans aucune marque. Ce n'est pas notre cas, en tout cas dans la grande majorité de nos expériences personnelles. Nous ne sortons jamais sans traces, sans brûlures, sans marques, des fournaises de la vie dans lesquelles il nous arrive de tomber. Nous souffrons et nous luttons dans ces fournaises et bien souvent nous n'y voyons pas, contrairement à Shadrach, Meshach et Abednego, quelques présences divines à nos côtés. Est-ce que ça voudrait dire justement que, contrairement à ces trois hommes, alors nous ne serions pas aimés de Dieu ? Mais poser cette question, ce serait oublier un peu vite tous les prophètes, les apôtres, tous les hommes et les femmes de Dieu, de tous les temps, auxquels l'Éternel n'a pas épargné ni fournaise ni persécution, et que dire du Christ lui-même ? Simplement, je crois qu'il y a deux aspects de ce récit que nous devons garder. Dieu est auprès de tous ceux qui sont dans la fournaise et eux ne le voient pas forcément. Regardez dans ce texte, rien ne dit que les trois jeunes gens voient le quatrième. C'est Nabuchodonosor qui, de l'extérieur, voit ce quatrième personnage à qui il semble attribuer des qualités divines. Et Dieu est donc avec nous dans la fournaise sans que nous en prenions forcément conscience. Mais voilà, Dieu n'est pas un Dieu talisman, le Dieu qui nous préserverait de tout mal. Il est le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu crucifié, qui lutte et souffre avec nous, le Dieu qui ne nous épargne pas systématiquement la souffrance, mais qui nous promet un avenir et qui, malgré le mal, donne un sens à notre vie. Aussi, frères et sœurs, qu'aucune fournaise ne nous fasse jamais désespérer. Ni celle que nous allumons, Nabuchodonosor finit par rendre grâce à Dieu à la fin du texte, ni celle dans lesquelles il nous arrive parfois de tomber, car Dieu est à nos côtés. Et s'il n'est pas le Dieu Tout-Puissant qui nous empêche de souffrir, il est le Dieu de la vie qui nous promet un avenir. Il est le Dieu d'amour qui nous promet sa présence, parfois discrète, au cœur de la tourmente. Il est le Dieu qui nous annonce son royaume de paix, quelles que soient nos batailles d'hier, d'aujourd'hui ou de demain. Et c'est cette présence de Dieu au cœur de nos vies et de nos tempêtes, de nos fournaises, que je vous invite à garder avec vous, à garder dans vos cœurs et à méditer. Amen.